Afin de dissuader les adolescents de rejoindre les bandes de blousons noirs, en France, dans les années 60, les politiques s'étaient mobilisées en faveur des maisons des jeunes et de la culture. Ces structures basées sur l'éducation populaire, la culture artistique et sportive ont programmé dès les années 1980 des cours de danse hip-hop comme des ateliers de graffiti. Les années Mitterrand voient l'intégration des jeunes comme une priorité et, en 89, le contrat de ville accompagne cette politique. En 2007, le texte devient le contrat urbain de cohésion sociale et la promotion de ce que l'on appellera les cultures urbaines est un de ses axes. Dans le même élan, une valeur artistique sera reconnue au graffiti hip-hop par le ministère de la Culture et de la Communication, notamment sous l'impulsion de Jacques Lang. La mise en avant des pratiques juvéniles et urbaines liées au hip-hop est présentée comme un moyen de répondre à la problématique de l'exclusion et de favoriser la citoyenneté. Mais c'est aussi une manière de les saisir dans un cadre normatif. Afin de favoriser l'expression artistique du graffiti, des mairies ont mis en place des murs d'expression libre. Si par ces procédés, les graffiteurs trouvent des conditions favorables à l'exercice de leur art, beaucoup concèdent qu'ils s'y trouvent dénaturés.
À Rennes, il y a une trentaine de murs d'expression libre. Mais il s'avère qu'ils ont une politique qui est vachement différente de celle de Dijon ou de Besançon, quoi. La ville a mis en place cette politique après un procès. Un procès qui opposait des graffeurs à entre autres la ville et puis ces peintres ont réussi à faire valoir la valeur artistique de ce qu'ils faisaient. Ça a lancé un débat dans la ville et puis l'idée de mettre en place un dispositif d'expression libre, quoi.
Ouais, moi je suis passé à Rennes une fois, il y avait tout un chantier où il y avait les palissades qui étaient justement qui étaient dédiées à ça.
C'est à double effet, quoi. D'une part, ça permet à des gens de faire un peu ce qu'ils veulent dans ce cadre-là, qui reste un cadre. De l'autre part, ben, ça casse un peu l'aspect transgressif du mouvement, quoi. C'est de l'encadrement, donc ouais. Ça peut être aussi décrié comme une espèce de manière de domestiquer la chose.
Un tel dispositif ne représente rien de plus que la domestication pragmatique d'une idée fondamentale au sein d'un cadre limité et finalement contrôlable. Des graffiteurs boycottent les murs légaux.
C'est tellement facile de montrer une énième foire avec tous ces petits arrivistes dont les seuls graffitis se trouvent dans les ruelles entre chez Agnès B et le Grand Palais. Non, je parle des vrais, de ceux qui font leurs preuves dans la rue, le métro ou simplement dans les terrains vagues. Peu importe tant que leur démarche est sincère. Et ce qui définit cette sincérité, c'est la complexité de leur personnalité, l'évolution de leurs expérimentations, ceux qui cherchent avant tout à ne pas ressembler aux autres et qui savent se remettre en question, prendre des risques et qui se trompent parfois, souvent. C'est l'authenticité du personnage qui fait sa grandeur. Ces virtuoses du graffiti ne sont pas dures à trouver, nous les connaissons. Ils ne savent pas toujours se vendre. Ils ne passent pas leur journée à gratter à la porte. Les puristes sont plus durs à gérer, plus durs à cadrer, les hors normes, les introvertis, les autistes. Et parce que ce qui les motive n'est pas le profit mais leur sensibilité, leur âge ou leur intelligence, leur vision aura toujours une longueur d'avance. Marre du politiquement correct, du strict propre sur lui, des rebelles du premier rang, des bonjour et des merci à la caisse par ici, du vide, du creux, du zéro talent, du graffiti décoratif, des bad toys pour les good boys, de faire des trucs tous ensemble, comme si j'étais ton pote. Moi je veux de l'esprit, de l'élégance, du scandaleux, de l'introspectif, du torturé, de l'émotif, de la déviance, du vitriol, des problèmes avec la justice et brûler Futura 2000. Je veux un truc qui plairait pas à ma mère. Quand tu fais ça, c'est que la ville a donné son accord. En fait, tu t'intègres dans une démarche qui n'est pas la tienne. Le graffiti illégal, c'est pas vivant, c'est pas libre. C'est un passe-temps comme si tu pouvais aller payer une heure de tennis le dimanche. Tu sais que ça va être chaud, tu trembles. Puis une fois que c'est parti, t'es clairvoyant, t'es alerte. T'es beaucoup plus performant que dans la vie de tous les jours. Quand tu fais attention à tout, t'arrives à peindre, à regarder à droite, à gauche, t'entends tout. Tu réagis au quart de tour comme un pilote de Formule 1. Tu as cette adrénaline qui te met un coup de boost. Après, tu peins. C'est ça qui est bon. Tu as le plaisir de peindre qui est majoré par le fait que tu dois aller vite. Après, quand ça redescend, t'obtiens le plaisir. Ça redescend sûrement comme un gars qui prend une dose. T'as la dopamine qui prend place sur l'adrénaline. C'est ça le graffiti, c'est pas une question de peinture, c'est une question d'action.